On va terminer ces entretiens, on peut les applaudir effectivement, avec Maria Soto et Sandrine Augusto. Bonjour à toutes les deux. Alors, pour présenter, Maria Soto est gériatre, responsable du Centre Mémoire de Ressources et Recherche du CHU de Toulouse, présidente également de la Fédération du Centre de Mémoire. Et puis, à ses côtés, Sandrine Augusto, qui est infirmière au Centre Mémoire Ressources et Recherche du CHU de Toulouse. Toutes les deux, cet après-midi, vont nous parler du projet Personal. Il s'agit en fait de former les aidants et les soutenir au mieux, bien évidemment, de personnaliser aussi les soins auprès de patients. Alors, en quoi consiste cette formation des aidants? Pourquoi avoir lancé ce projet? Et que recherchez-vous à partir de ce projet? Je vous laisse la parole. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à vous de rester jusqu'au dernier moment. Merci à la Fondation de nous avoir invités, à Sandrine et à moi. Et effectivement, c'est dans le chapitre de comment renforcer le domicile ou des actions innovantes vers le domicile. Vous allez voir qu'on va être très complémentaires des ESA et même je les remercie parce que Personal et l'équipe Personal, notamment Sandrine Augusto, s'appuient beaucoup sur les ESA. Donc cette étude, c'est une étude de recherche. Il est financé par la DGES, pour le ministère de la Santé, et qui vise à proposer une nouvelle prise en soin des patients, mais aussi de leurs aidants. Et ça, c'est vraiment la nouveauté, parce qu'il y a eu plein des études ciblant les patients, mais peu ou très peu, disons, le couple. Chacun avec sa intervention différente. Donc c'est un PREPS, cette étude a été financée en 2019 et nous avons commencé les inclusions. Je regarde Elodie Lestimel, la chef de projet de Personal, donc je profite de la remercier. Nous avons commencé il y a 2 ans. Oui, hein, c'est ça, je ne me suis pas... Donc... Pourquoi? Donc, les symptômes psychocomportementaux, vous le savez bien, je ne veux pas expliquer qu'est-ce que sont. Ce sont liés au processus de la maladie, et quelle que ce soit la maladie neurocognitive, maladie d'Alzheimer, maladie à Cordelewy, etc. Le docteur Del Rey vous a présenté les différentes maladies apparentées. Et effectivement, c'est le résultat d'une dysrégulation, d'un dysfonctionnement de notre cerveau. Et pareil qu'il y a symptômes de la mémoire, symptômes du langage, symptômes pour organiser une tâche, eh bien, nos neurones, aussi surtout dans le lobe frontal, mais pas que, responsables de notre comportement, de nos impulsions, de notre affectivité, de nos sentiments aussi sont touchés et donc sont à l'origine de ces symptômes psychologiques et comportementaux. Donc, on sait que ces symptômes sont fréquents, sont très fréquents. Là, il y a 80%, même je dirais 90% avec les dernières études. Et on sait que même au début de la maladie, même avant les symptômes cognitifs, au stade prodromal de la maladie, ils sont déjà fréquents par un renforcement de traits des personnalités. Pour quelqu'un qui devient un peu plus angoissé ou anxieux, etc., c'est même plus fréquent parfois que les symptômes proprement cognitifs. Donc, ils sont très fréquents, mais ce n'est pas que fréquents, c'est en plus, ils ont un impact majeur, péjoratif, à la fois sur le patient, en premier lieu, mais aussi sur les aidants et les systèmes de santé. On sait que, depuis qu'ils apparaissent, ils vont complètement modifier le pronostic, l'évolution de la maladie, avec plus d'hospitalisation, plus de traitements, plus de chutes, plus d'épuisement de l'aidant, etc., avec toute la cascade de complications qui se suivent. Donc, la grosse problématique de la prise en charge, du traitement, est due à deux caractéristiques et deux problématiques, finalement, ce qui rend extrêmement difficile la prise en charge de ces symptômes. C'est tout d'abord la hétérogénéité. Hétérogénéité par rapport au phénotype, c'est-à-dire le type des symptômes. On sait qu'il y en a plein, types d'agitation, opposition aux soins, refus à l'aide, irritabilité, agitation, agitation anxieuse, agressivité verbale, agressivité physique, trouble du sommeil, comme le docteur Salitz vient de nous présenter, comportement moteur aberrant, plein, tout ce que touche ces symptômes psychologiques et du comportement. Ils sont très hétérogènes parce qu'en plus, ils peuvent être fluctuants, apparaissent, on ne sait pas pourquoi parfois, c'est superpose, une agressivité physique peut être responsable d'une idée délirante de persécution qu'on n'a pas vraiment identifiée, mais que ce qu'on voit, c'est l'agressivité physique ou l'opposition. Donc c'est extrêmement hétérogène. Aussi la éthiologie, je vais revenir sur ça parce que c'est la clé de la prise en charge, cette éthiologie multifactorielle de symptômes. Déjà, on a vu le gros tableau de Dr Salitz pour les troubles du sommeil. Vous avez vu tous les facteurs qui sont associés. Donc, pour chaque symptôme autre, exactement pareil. Donc, cette éthiologie multifactorielle que je reviendrai. Et deuxième problématique, c'est l'option thérapeutique. Déjà, les traitements pharmacologiques ne sont pas si fréquents. Quand ils existent, l'efficacité est vraiment moindre, et on le sait. Et parfois, au début, ça marche, et après, ça ne marche plus. Et en plus, il y a des gros effets secondaires, je ne veux pas rentrer sur le risperdal, sur des autres, les benzodiazépines à court, moyen et long terme, ils ont de gros effets secondaires et graves sur nos patients. Et de l'autre côté, l'option thérapeutique non pharmacologique, cette option qui est la première ligne de traitement, comme les ésaphons, c'est ce qui marche, et on le sait, et on a des études que c'est exactement ce qui marche, mais à l'heure actuelle, notre système de santé ne permet pas de le mettre en place. Les ESA, c'est un exemple, mais on n'a pas des ESA partout. Il y a la formation des aidants, pareil, que c'est ce qui a montré l'évidence scientifique la plus importante. Quand on forme les aidants, soit naturels, soit professionnels, on diminue l'agitation. Eh bien, ça prend du temps, il faut les former. On a besoin de personnel, on a besoin de ressources que le système de santé aujourd'hui n'a pas. Et c'est pour ça que nous, on a proposé cette étude pour démontrer que cette prise en charge en associant une infirmière qui va faire de rôle de coordination aussi avec tous les autres dispositifs, plus en formation, peut démontrer effectivement la diminution des symptômes et des autres critères que je vais vous présenter. Ça, très rapidement, effectivement, la première cause des symptômes psychocomportementaux, c'est la maladie elle-même, j'en ai parlé, c'est la destruction des circuits, des neurones. Mais il y a trois blocs en bas, des facteurs associés à chaque symptôme, qui sont clés et qui vont être aussi à l'issue, à l'origine d'une agitation, d'un trouble du sommeil, etc. Il y a bien sûr tous les facteurs liés au patient, sa personnalité, s'il y a mal, s'il y a une infection concurrente, s'il s'ennuie, s'il y a des besoins spécifiques, tout ça, il faut le tenir en compte. Il y a l'environnement, est-ce qu'il y a une stimulation trop excessive? Est-ce que parfois il n'y a pas d'une routine quotidienne qui aide aussi un petit peu à la diminution de ces symptômes? Est-ce qu'il y a un problème de sécurité? Et au milieu, il y a les dents. Et là, on parle des dents personnelles, des dents naturelles. Et effectivement, on sait que quand c'est des dents, il est stressé, il est fatigué, il est parfois dépressif. Il ne comprend pas la signification de troubles cognitifs, il ne comprend pas la signification du symptôme psychocomportemental quand il y a une adéquation de les attentes et ce que de les dents et ce que le patient peut réellement faire à cause de la maladie. Tout ça, on le sait, c'est source aussi des symptômes psychocomportementaux. Eh bien, les études évaluant des mesures non pharmacologiques à la fois sur le patient, sur les aidants et sur l'environnement, c'est sur les aidants, quand on les forme, quand on les soutient, quand on diminue les stress, quand on les éduque sur les troubles du comportement, sur la maladie elle-même, sur comment, technique de communication, c'est ça sur qui a démontré vraiment l'efficacité sur les symptômes psychocomportementaux. Donc, on le sait, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les recommandations disent pareil, les traitements non pharmacologiques, la formation des aidants et autres, qu'il n'y a pas une solution unique parce que chaque patient est différent, chaque aidant est différent, chaque environnement est différent et que finalement, il faut vraiment personnaliser, et ça les ESA le savent, personnaliser à chaque cas et même personnaliser à chaque moment parce que l'évolution aussi fait que tout change et que c'est un projet vraiment très personnalisé et axé sur la personne. Donc du coup, l'idée de cette étude, c'est que nous proposons d'étudier l'efficacité de cette prise en charge pour identifier, comprendre les causes de ces troubles du comportement, pour à la suite proposer un projet, une intervention très personnalisée qui va se composer de plusieurs choses, comme les ESA. Et donc du coup, ce qu'on veut démontrer, c'est que cette prise en charge globale, personnalisée, très centrée sur la formation de l'aidant, va pouvoir diminuer les hospitalisations, il va avoir un effet positif sur l'évolution de la maladie, moins d'aggravation cognitive, moins de symptômes psychocomportementaux, du coup, meilleure qualité de vie, et un effet positif aussi sur la détresse de l'aidant. Bon, et ça ne marche pas. Et alors ? Bon, donc le critère principal, c'est la diminution de hospitalisation à 18 mois, mais aussi on va étudier au bout de 18 mois d'études le recours aux urgences, la sévérité des symptômes d'agitation, la prescription des psychotropes, la qualité de vie, tout ça pour le patient. Pour les dons naturels, effectivement, ce retentissement, les hospitalisations, la qualité de l'aidant. Et après, on va faire un gros impact médico-économique, parce que si on veut convaincre à nos tutelles et au ministère de la Santé et de la Solidarité qu'effectivement, mettre en place toutes ces prises en charge, tous ces suivis, donc peut-être on va diminuer le recours aux hospitalisations, on va diminuer la dépendance, on va diminuer beaucoup de choses, et que finalement c'est un investissement que ça vaut la peine. Donc pour ça, il faut démontrer par une étude médico-économique de cette étude. Donc à qui adresser ce projet de recherche ? Il est adressé aux patients qui sont atteints d'une maladie neurocognitive, Alzheimer, maladie accordée Lewy, vasculaire, celle que voilà, n'importe laquelle, qui habite à domicile, qui a un aidant naturel identifié, ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant, mais au moins qu'il y a 6 heures par semaine de contact. Et au total, ils vont participer dans cette étude 18 mois. À l'inclusion, il y a une randomisation, c'est-à-dire un tirage au sort. Et il va y avoir 2 groupes. Un groupe contrôle, on va faire le suivi, comme d'habitude, tous les 6 mois en consultation avec le médecin, il n'y a pas d'infirmière. Et l'intervention, ça va être toute cette prise en charge que Sandrine va vous expliquer tout à l'heure. Et au bout de 18 mois, on va comparer entre les deux bras, effectivement, tous les critères que je vous ai présentés tout à l'heure. Au total, 668 binômes vont être ou sont en cours d'inclure. Donc, il s'agit d'une étude nationale. Il y a 17 centres, 75 sont en Occitanie. C'est une grosse étude nationale multicentrique. Et l'étude va comparer ces 2 groupes. Le groupe contrôle, tous les 6 mois, versus toute l'intervention que Sandrine va vous présenter tout de suite. Et je crois que je vais passer la parole maintenant. Sandrine va vous expliquer en quoi consiste cette intervention et comment on fait.
Ah ben si tu veux. Ok. Bon, donc voilà, dans le concret, en pratique, comment ça se passe ? Donc voilà, le professeur Soto vient de vous dire, on compare 2 groupes. Un groupe qu'on appelle le groupe contrôle, qui va venir tous les 6 mois en consultation chez le spécialiste, c'est à l'heure actuelle la prise en charge qui est recommandée. Et le groupe intervention, donc là où je vais vous le détailler, qui en plus de ces consultations qui vont se réaliser en binôme médecin spécialiste, infirmier spécialisé, en plus de ces consultations donc tous les 6 mois, vont avoir un suivi rapproché et personnalisé avec une infirmière qui va, entre les visites, pouvoir réaliser des suivis téléphoniques et aussi des visites à domicile. Comment ça se passe, la consultation donc, pour le groupe intervention ? C'est donc un accueil du binôme patient et de son aidant avec le médecin et l'infirmière dans un même box, donc un petit temps d'accueil où on va recueillir les données, voir quel est le motif de la consultation, voilà, et recueillir ensemble les données dont on a besoin. Dans un second temps, et là ça va prendre plus de temps, on va faire des entretiens séparés. D'un côté, le médecin spécialiste va faire voilà, l'examen clinique, tous les examens qu'il estime nécessaires pour le suivi du patient. Et dans le même temps, à côté, Ben là, c'est l'entretien infirmier avec les dents, où on va faire différentes choses, mais surtout de la formation de les dents, et ça, je vais le détailler tout à l'heure. Une fois qu'on aura réalisé ces deux entretiens, et bien identifié les besoins, analysé aussi les problématiques, on va se retrouver pour une synthèse avec médecins et infirmiers pour proposer, prioriser aussi les propositions de prise en charge et faire un plan de soins personnalisé voilà, au plus près des attentes et des besoins du patient et de son aidant. Qu'est-ce que c'est que la formation ? Alors, la formation de l'aidant, c'est l'axe qui est le plus développé tout au long de ces 18 mois de suivi. Il y a différents axes de formation. Le premier axe de formation, c'est tout ce qui va être comprendre la maladie et comprendre aussi les modifications psychocomportementales, le sens des troubles du comportement. Parce que les manifestations psychocomportementales, finalement, il faut les comprendre comme l'expression d'un besoin qu'on ne peut pas exprimer d'une autre manière, et on va chercher à y répondre plutôt que chercher à empêcher le trouble du comportement. Donc ça, on va le faire tout au long du suivi, en consultation, en suivi téléphonique, en visite à domicile, mais aussi lors d'une formation en présentiel qui aura lieu une fois au cours des 18 mois. La formation personnalisée, c'est aussi donc apprendre finalement des techniques de communication en situation de soins ou en situation qui pose problème à la maison. C'est qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, comment est-ce que je peux faire, mais vraiment en situation concrète. C'est aussi participer à construire avec les dents tout ce qui va être tout ce qui va pouvoir augmenter l'activité du patient. Augmenter l'activité, mais c'est-à-dire trouver des activités qui soient appropriées aux capacités, préservées, etc. Et ça va être aussi prévenir les risques de l'épuisement de l'aidant avec du soutien, avec aussi tout ce qui va être l'aider à repérer les ressources dont il dispose, que ce soit professionnel ou sur le plan du réseau associatif, médico-social. Et enfin, il y a tout ce qui va être la formation en ligne, puisque ce programme personnel, on a aussi une plateforme web sur laquelle on peut échanger des données, transmettre des ordonnances, et sur laquelle il y a des vidéos de formation et des sites d'intérêt qu'on a référencés. Globalement, la formation, ça va être autour de deux axes, savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être, mais en situation concrète. Le savoir-être, c'est tout ce qui participe à améliorer la communication. Et on s'appuie, donc c'est à chaque fois personnalisé en fonction des besoins de l'aidant, et c'est appuyé sur les recommandations HAS 2009. Tout ce qui va être éviter de transmettre plusieurs messages à la fois, plutôt choisir des questions fermées, et donc tout ce qui peut participer à améliorer la communication. Et ce qui est du savoir-faire, c'est en situation concrète, identifier pour l'aidant, l'aider à identifier ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il peut faire. Et par exemple, quand son proche malade veut sortir à 17h parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, on va pouvoir identifier ensemble ce que je ne peux pas faire, essayer de le raisonner, de le contraindre, de lui barrer la route. Et qu'est-ce que je peux faire du coup ? Ça va être utiliser des stratégies de diversion, l'accompagner, peut-être l'accompagner, aller faire un tour dehors et aller sur une activité, voilà, essayer de passer un peu à autre chose. Voilà dans le concret comment est-ce qu'on va pouvoir développer ces deux axes-là. Donc enfin, pour conclure, peut-être réinsister sur deux points. Donc le contexte, vous l'avez bien compris, c'est la prise en charge des troubles du comportement qui sont une complication grave et fréquente. Et l'idée de personnel, c'est de les anticiper, de les prévenir. Comment ? En faisant de la formation de l'aidant et en proposant des propositions de prise en charge personnalisées. Voilà.
Moi, ce que j'aime beaucoup quand je suis avec Sandrine en consultation, c'est quand l'aidant commence à dire « j'ai ça, il dort pas ». À 18h, effectivement, il faut qu'il sorte récupérer les enfants parce qu'il me fait la crise. Il me fait le tour, il me démonte tous les placards, tout ça. Et Sandrine s'arrête, regarde les dents, d'accord ? Quel est le problème ? Qui vous pose plus de problèmes ? Et donc, elle est capable de prioriser, de dire, voilà, c'est le sommeil. Bon, alors, on va faire tout pour, on va analyser le contexte, on va voir les facteurs associés, on va faire un plan. Donc aussi, ça aide beaucoup à l'aidant de, effectivement, de prioriser, voilà, de donner la priorité et de savoir aussi, à la fin, ils deviennent, maintenant qu'on finit la formation, on finit l'étude, il y a déjà des patients qui ont fini, on voit comment les aidants, ils ont appris à raisonner. Mais à raisonner comme professionnel de santé, hein, en disant, voilà, c'est ça le plus difficile, je le décris, quels sont les facteurs possibles associés, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et c'est ça ce qui est intéressant, et surtout d'être en anticipation. Merci.
Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Sandrine, et merci, Maria. Est-ce que vous avez des questions suite à ce projet Personala? J'espère que j'ai bien prononcé.
Oui, Personal, oui. Voilà. Bon, si vous avez des couples, parce qu'on est toujours en cours d'inclusion, donc oui, donc soit parce que vous connaissez via les ESA, donc je propose d'aller voir Madame Elodie Lestimé, là, des flyers de contact, et via les ESA, via des, voilà, si vous avez des proches, je regarde la cadenne aussi, on est à discuter, parce qu'on est à 400 couples, mais il faut qu'on arrive à inclure beaucoup plus. Merci.
Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes les deux. On arrive à la fin de cette deuxième édition des entretiens de la Fondation Recherche Alzheimer. Merci à tous les intervenants. Merci également aux partenaires. Et puis, Jean-Luc, je vous laisse le mot de la fin pour cette deuxième édition. Merci à tous et à toute l'équipe aussi organisatrice.
Je vais aller très très vite parce qu'il reste plus beaucoup de survivants à la fin de cet épisode. Voilà. On sait que c'est un peu long, mais il y a tellement de choses, c'est tellement dense. Il faudrait que on ait beaucoup plus de temps finalement et à la fois beaucoup plus de disponibilité. Merci à tous ceux qui sont intervenus et en dernier lieu aux deux dernières interventions qui sont toujours les plus courageuses, j'ai envie de dire, avec une salle qui se vide un peu. Mais c'est pas grave, je pense que tous ceux qui sont restés jusqu'au bout ont pu bénéficier en fait des très belles initiatives qui sont mises en œuvre et c'est formidable. Voilà. Je remercie une nouvelle fois nos partenaires qui permettent à ces entretiens de se tenir. On a été beaucoup plus nombreux cette année. Et je pense qu'on le sera encore plus l'année prochaine parce qu'on observe un enracinement progressif. C'est important de venir, de revenir, parce que malheureusement, nos salles, on a l'habitude, on analyse les chiffres après les entretiens Alzheimer, se renouvellent de 50% à 70% tous les ans. Parce qu'il y a de nouvelles personnes dont les proches entrent dans la maladie d'Alzheimer. Et en fait, votre présence est précieuse, que vous soyez professionnel ou proche de patients. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Et puis, rendez-vous l'année prochaine.
N'oubliez pas de répondre au questionnaire. Voilà, qui va s'afficher. N'oubliez pas de répondre, c'est très utile. Merci. Voilà.